Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Mélomanie, heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale, après une période de congé en ce qui me concerne, et oui, ça m'arrive aussi. Cela dit, la première quinzaine du mois de mai a été relativement calme, sans doute en raison des ponts et jours fériés qui la parcouraient cette année. Plusieurs concerts ont tout de même eu lieu depuis notre dernière émission, ceux que nous avions annoncés lors de celle-ci. Et pour revenir sur ces différents événements, j'ai le grand plaisir de retrouver également mon ami Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, également chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. Serge et moi, nous avons un invité d'honneur en accueillant pour la deuxième fois à Mélomanie Gabriel Bourgoin, chef du chœur et de la maîtrise de l'Opéra National du Capitole. Le chœur qu'il dirige fait non seulement partie de la production de Péléas et Mélisande, à découvrir à l'Opéra National du Capitole du 17 au 26 mai, mais il est aussi en concert à la Chapelle des Carmélites ce samedi 18 mai. Gabriel Bourgoin va nous en dire plus en seconde partie d'émission, mais tout d'abord, nous allons revenir comme d'habitude sur l'actualité musicale récente avec Serge Chauzy. Retour arrière.
Mélomanie. Retour arrière.
Bienvenue Serge et bienvenue aussi à Gabriel Bourgoin, merci d'être au rendez-vous.
Bienvenue.
Nous allons commencer cette rubrique en revenant sur le concert donné par l'Orchestre National du Capitole le 3 mai. Comme on pouvait s'y attendre, il a rempli la halle au grain puisqu'il marquait le retour de Tarmo Peltokoski à la direction de l'ensemble symphonique toulousain. Serge, vous étiez présent dans la salle bien sûr pour assister à cette grande soirée de musique qui avait été sous-titrée « Crépuscule romantique ». Et lors de laquelle on a fêté aussi un anniversaire.
Même un double anniversaire, puisqu'on a fêté aussi les 50 ans de la création de l'Orchestre du Capitole, qui n'était pas national à l'époque, qu'il est devenu. Et puis, nous fêtions les 700 ans des Jeux Floraux de Toulouse, l'Académie des Jeux Floraux, bien connue à Toulouse. Et du coup, nous avons eu droit à deux poèmes déclamés avant chacune des deux œuvres qui composaient ce concert, déclamés par les auteurs eux-mêmes. Donc vraiment un concert très varié et très ouvert, avec deux œuvres que l'on peut qualifier de crépusculaires, puisque toutes les deux sont les dernières œuvres de leur compositeur relatif. La première de ces œuvres, c'était les quatre derniers Lieder de Strauss, qui étaient précédés par un poème de la poétesse Hélène Dorion, un poème qui s'intitule « Cœur comme livre d'amour » et qui était lié à ces quatre derniers Lieder qui suivaient. Donc on a eu droit à ceci. Et puis est arrivée la soprano israélienne Chen Reis, une soprano donc avec une voix très sonore, très belle, qui s'épanouit surtout dans les aigus. Les graves sont un peu plus discrets, mais c'était vraiment une belle déclamation là aussi de ces quatre Lieder, donc Frühling, Printemps, et puis Beim Schlafengehen aussi, et puis le Im Abendrot, il y avait September avant. Alors ce qui était vraiment admirablement phrasé, c'était dans le Beim Schlafengehen, puisque il y a d'abord un solo de violon, et c'était Jaewon Kim, la super soliste de l'orchestre, qui jouait ce solo, qui est repris avec lyrisme par la soprano. Donc là, c'était vraiment un passage extrêmement émouvant, jusqu'à la fin, qui se conclut sur un terme émouvant là aussi, puisque la soprano dit ses dernières paroles, c'est « Serait-ce cela la mort ?» Et donc, mais une mort souriante, une mort paisible. Donc, une très belle première partie. Et en deuxième partie, donc, c'était là aussi la dernière œuvre, cette fois d'Anton Bruckner, sa symphonie numéro 9, inachevée d'ailleurs. Et donc, nous avons eu droit uniquement aux trois mouvements achevés par Bruckner, puisqu'il avait écrit quelques esquisses pour un final, qui ont été utilisés par des musicologues, par des compositeurs, pour reconstituer une sorte de finale. Mais là, nous n'avons eu droit qu'aux trois mouvements complétés par le compositeur. Et justement, précédant cette exécution, nous avons eu la lecture par Marc-Alexandre Obambé, qui est poète, slameur et romancier. Et donc, il a lu son poème « Il y aura toujours quelque chose à sauver ». Et là aussi, c'était vraiment en relation avec cette symphonie qui suivait, en particulier son scherzo d'ailleurs. Et donc, on a eu les trois mouvements en question. Alors, je voudrais d'abord préciser quand même, la direction de Tarmo Peltokoski a ahuri tout le monde de précision, de finesse, d'intelligence, dans l'accompagnement, si l'on peut dire, des quatre derniers leads. Vraiment, on avait l'oreille attirée par ce qui se passait à l'orchestre. C'était mais vraiment magnifique. Et la même chose avec la symphonie numéro 9. Alors, on n'a pas l'habitude, quand on parle de la musique de Bruckner, de parler de raffinement. Mais là, c'était le cas. Une sorte de musique de chambre pour grand orchestre, avec les solos des instruments individuels qui ressortaient très bien. Vraiment, c'était d'une beauté incroyable. Le contrôle de ce chef sur son orchestre, on peut dire maintenant son orchestre, est absolu, à la fois dans les détails et dans la ligne générale, dans la ligne directrice. Un très beau moment, avec en particulier ce scherzo Bewegt Lebhaft, qui est dit agité et vif, et qui était là d'une certaine sauvagerie, vraiment, hein, qui était tout à fait en situation, avec donc un dernier mouvement, alors, à tirer les larmes, hein, ce dernier mouvement qui n'était pas prévu au départ d'être le dernier, donc cette phrase, large phrase qui ouvre ce mouvement, là c'est d'une beauté extraordinaire, c'est un adagio, langsam feierlich, comme le dit Bruckner, c'est-à-dire lent et solennel, et qui mène l'auditeur vers une conclusion à la fois irréelle et sereine. Il s'agit vraiment d'une apothéose mystique en quelque sorte, et là on comprend que l'on ait qualifié les symphonies de Bruckner de cathédrale mystique, c'est vraiment le cas. Et alors, il a le don, ce chef, ce jeune chef, de suspendre le silence. La fin du mouvement, du dernier mouvement, du troisième, qui est un grand silence, il a maintenu ses mains, ses bras en l'air, le public n'a pas osé applaudir, et pendant 30 secondes, au moins, on a entendu qu'enfin il baisse les bras pour qu'on puisse libérer l'enthousiasme du public. Ça a été un enthousiasme. Et puis ça s'est achevé par un bouquet de fleurs que le chef a offert à l'altiste Timoteusz Sipniewski, qui est un altiste de longue date à l'orchestre du Capitole et qui a décidé de prendre sa retraite. Et donc, il a eu droit à une touchante sérénade par ses collègues et même par un « ce n'est qu'un au revoir » qu'a repris toute la salle. Ben, très émouvant.
Il faisait vraiment partie du décor. Hein. Alors, je crois que ses camarades l'appellent Jacek. Oui. Entre eux, et je ne vais pas dire de bêtises, mais il y a au moins 40 ans, je pense qu'il était à l'orchestre.
Ah oui, c'est très
je me demande même s'il n'est pas arrivé en 83, à l'époque avec un orchestre polonais, qui je crois était de passage à Lourdes, et en fait, il est resté, c'était encore à l'époque du Rideau de Fer.
Il était resté,
et Michel Plasson l'avait accueilli à l'orchestre.
Exact.
Et puis depuis, il s'est établi dans la région, il a eu des enfants, dont certaines sont de merveilleux musiciens aussi, grande famille de musiciens.
Très bien, très bien.
On le salue.
En plus, c'est un homme adorable.
Il y a ça qui, effectivement, est un homme adorable, qui était venu dans une émission de Radio Présence il y a déjà assez longtemps. Ah. Voilà, mais on le salue et on salue Tarmo Peltokoski parce que c'était le dernier concert de la saison pour lui, avec l'orchestre. Mais il était présent la veille à la présentation de la prochaine saison, la 24-25, où il sera souvent à la tête de l'orchestre pour de nombreux concerts.
Neuf concerts
tout de même.
Dans la saison.
Donc il va être vraiment très présent. Et on en parlera un peu plus largement bientôt avec Jean-Baptiste Fra, le délégué général de l'orchestre, qui viendra dans cette émission. Un petit extrait de la symphonie numéro 9 d'Anton Bruckner, avec le début de son très bel et majestueux adagio, vous en parliez, Serge, sous la baguette d'un autre jeune chef finlandais qu'on a eu aussi l'occasion de voir diriger notre orchestre à Toulouse, Klaus Mäkelä. l'Adagio de la symphonie numéro 9 d'Anton Bruckner, dirigé par Klaus Mäkelä à la tête de l'Orchestre de Paris. Prochain concert de l'Orchestre National du Capitole ce dimanche 19 mai à 11h à la Halle aux Grains avec Cabo Caboche, une œuvre pour le jeune public composée par Carole Beffa. Le dimanche 5 mai à la Chapelle des Carmélites, l'ambiance était tout autre pour le dernier concert de la saison Toulouse Guitare qui accueillait le luthiste Thomas Dunford. Thomas Dunford, c'est un excellent et très attachant musicien devenu en quelques années l'une des stars de la jeune scène baroque française. Mais comme d'habitude, son récital était précédé d'une première partie dédiée à un jeune talent issu de la formation musicale toulousaine ou passé par elle. Et cette fois-ci, c'était une guitariste qui s'appelle Dorine Guillebeau, Serge.
Exactement. Alors, une jeune guitariste qui a donné un mini récital, en quelque sorte, avec des œuvres très peu connues, en particulier un Divertimento 2 d'un certain François de Fossa. J'ai fait sa connaissance ce soir-là. Il est mort en 1849, pour dire un peu, avec beaucoup d'éloquence et beaucoup de poésie dans son jeu. Et puis ensuite, trois extraits d'une suite Caprichos di Goya de, alors un plus connu, oui. Mario Castelnuovo Tedesco. Donc là, on était plus un pays connu, avec trois extraits, en particulier un premier extrait des Qual mal morira, qui demandait à l'interprète d'étranges manipulations sur les cordes qu'elle a fait avec beaucoup d'esprit, beaucoup d'intelligence et de finesse. Donc c'était une très belle introduction au récital de Thomas Dunford. Alors il joue du luth, de l'archiluth et du théorbe. Là, il était avec un archiluth magnifique, avec une sonorité splendide, très riche. Et il a joué un programme, alors j'allais dire comme lui seul sait les monter, parce que c'est un programme très original auquel on ne s'attendait pas. Il a commencé par 6 pièces de John Dowland, bien connu lui, avec des pièces nostalgiques comme la première, Dream, un rêve donc, puis avec des pièces des gaillardes, dansantes, légères, et puis une gaillarde, bien qu'elle soit appelée gaillarde, qui s'appelle Mélancolie Gaillarde, et qui est très méditative, très belle, et avec une pièce alors très émouvante, Lacrimée, donc les larmes, donc qu'il a joué avec un art accompli, des nuances, de la finesse, de l'intelligence et des phrasés. Et puis ensuite, alors il y a eu toute une séquence incroyable, deux œuvres d'Eric Satie, Gymnopédie 1 et Gnossienne 1, encadrées deux œuvres de Marin Marais. Donc 200 ans d'écart entre les deux, donc c'est incroyable. Alors les pièces de Marin Marais étaient à l'origine des pièces pour viol de gambe, évidemment, transcrites par lui-même, avec les voix humaines que l'on connaît à cause du fameux film, et puis une qui s'appelle L'Américaine. Et les deux pièces d'Eric Satie s'enchaînaient avec le Marin Marais sans hiatus. On avait l'impression que tout cela était composé pour le luth, et ça marchait parfaitement bien. Ensuite, on a eu droit à un retour aux sources en quelque sorte, une pièce de Jean-Sébastien Bach, sa suite pour violoncelle seul, la première, la BWV 1007, qui était transcrite donc pour luth, mais il nous a appris qu'initialement, Bach l'avait composée pour le luth. Mais ce n'est pas cette version-là qu'il a jouée, il a encore précisé les choses, il a joué la transcription de la version pour violoncelle de cette suite, mais vraiment très belle. On avait l'impression, là aussi, que c'était écrit pour le luth. Donc, un très beau moment qui s'est achevé avec deux autres pièces, une toccata de Kapsberger, cet Italien avec un nom germanique. Il est né en Allemagne quand même, mais il a vécu à Venise. Et puis, Catala a la Spagnola d'un certain Ambrosio D'Alza, que je ne connaissais pas non plus, qui est espagnol. Et ça faisait un peu un voyage en Europe, puisqu'on est passé en France, on est parti de l'Angleterre, on a eu l'Allemagne, et puis on a eu l'Italie avec Kapsberger et l'Espagne avec ce dernier compositeur. Grand succès, vraiment très grand succès pour lui, au point qu'il a donné deux bis, et deux bis auxquels on ne s'attendait pas, sauf si on le connaît bien, puisque c'est un grand amateur des Beatles, et il a joué et chanté vraiment deux chansons des Beatles, d'abord Blackbird Fly, et puis Yesterday, qui, inutile de le dire, a été repris en chœur par une bonne partie du public.
Il y a encore quelques années, je ne sais pas si c'est toujours le cas, c'était la chanson la plus diffusée dans le monde. Donc, tout le monde la connaît, la première moins.
Oui, mais alors, il l'a chantée en s'accompagnant à l'archiluth, avec une très belle voix. Et un très beau style.
Je pense qu'il chante ça dans sa chambre depuis tout petit, ou presque, j'exagère. Ah, mais oui, voilà, oui. Donc c'est vraiment un passionné de The Beatles, comme il dit lui-même.
Beatles, oui, Beatles. Oui, absolument.
Bon, alors, je rappelle que Don Ford, c'est pas par hasard, son père est américain. Hein,
oui, oui, non, mais...
Et c'est un gambliste, d'ailleurs, plus, Jonathan Don Ford.
Ah oui, d'accord. Et donc, en plus, c'est lui qui a présenté les œuvres avec un humour, bon...
Oui, mais il est très drôle, je disais, c'est un garçon extrêmement sympathique et très, très attachant. Eh bien, si vous vous demandez ce que donnent les gymnopédies d'Eric Satie aux luttes, voici un petit aperçu de ce qu'en a fait Thomas Don Ford avec la première des trois, la plus connue, celle que Satie recommandait de jouer sur un rythme lent et douloureux. La première gymnopédie d'Eric Satie, jouée par Thomas Don Ford, elle était au menu du dernier concert de la saison Toulouse Guitare, donné par le jeune luthiste le 5 mai à la chapelle des Carmélites. Et le lendemain, le lundi 6 mai à Saint-Pierre-des-Cuisines, c'était au tour des Clés de Saint-Pierre de clôturer leur saison avec un concert dont le programme avait été sous-titré « Romances et secrets ». Serge y était encore une fois et il va nous rappeler les noms des musiciens ainsi que les œuvres et les compositeurs que l'on a entendus ce soir-là.
Voilà, alors il y avait donc trois musiciens. D'une part, la violoniste Jaewon Kim, qui est, je le rappelle encore, la super soliste de l'Orchestre National du Capitole. Un jeune pianiste japonais, Kishin Nagai, qui se trouve être accompagnateur des classes de cor et de contrebasse du Conservatoire de Paris. Et celui qui a longtemps occupé, avec panache, il faut le dire, le pupitre de premier corps solo de l'Orchestre National du Capitole, j'ai nommé Jacques Deleplanc, que l'on connaît bien et qui a vraiment fait carrière.
Et qui est un jeune retraité maintenant, mais
jeune
toujours
retraité,
extrêmement actif.
Très actif, ah oui, absolument.
Et brillamment actif.
Il est toujours professeur, donc. Et dans ce programme, ces trois musiciens avaient décidé de réunir des œuvres de Clara Schumann et Johannes Brahms. Alors, ce n'est pas fortuit d'associer ces deux compositeur, Clara Schumann, l'épouse de Robert Schumann. On a soupçonné qu'il y a eu une liaison, des liens très forts entre elle et le jeune Johannes Brahms. Alors, est-ce vrai ou pas? En tout cas, ils se sont correspondus pendant très longtemps, ils se sont envoyés des lettres de grande amitié.
Il est possible que ce soit resté platonique, tout ça. Hein?
Voilà, oui. Bon,
personne ne peut témoigner que ça a été plus loin.
Non, non. Et pas vraiment la musique non plus.
Non.
Ne peut témoigner. Et d'ailleurs, ce n'est pas des œuvres rares de Clara Schumann que s'ouvrait ce concert. C'était trois romances pour violon et piano qui ont été conçues en 1853 et qui étaient dédiées au grand violoniste de l'époque, Joseph Joachim, celui-là même qui a collaboré avec Brahms pour la composition de son unique concerto pour violon. Des liens entre ces musiciens. Et là, Jaewon Kim et Kishin Nagai ont, de manière très nuancée, joué ces trois œuvres, courtes, hein, mais de belles œuvres, avec notamment les échanges passionnés du Leidenschaftlich schnell. Donc là, on peut imaginer que la passion avait souligné une relation entre les deux compositeurs. Et puis ensuite, le reste du concert était consacré à Johannes Brahms, avec d'abord sa première sonate pour violon et piano en sol majeur, un grand chef-d'œuvre du répertoire romantique, une sonate qui est sous-titrée Regensonata, c'est-à-dire sonate de la pluie, puisqu'elle reprend un thème d'un lied de Brahms qui s'appelle Regenlied, donc le chant de la pluie, qui est utilisé dans le troisième mouvement. Alors, trois volets magnifiques, très beaux, avec flamme et lyrisme des deux interprètes, et un adagio qui est vraiment profondément dramatique, avec cette émotion profonde, mais compte tenu du final que les interprètes concluent sur une espèce d'apaisement rédempteur. Très beau moment. Et pour la seconde partie du concert, elle était consacrée à une seule œuvre de Brahms, donc le trio pour piano, violon et cors, composé en 1864-65 par Johannes Brahms, avec Jacques Deleplanc, donc, qui a rejoint ses deux complices pour une exécution vraiment très séduisante de cette pièce. C'est le compositeur qui écrivait à propos de cette pièce. Un matin, je marchais, et au moment où j'arrivais là, le soleil se mit à briller entre les troncs des arbres. L'idée du trio me vint à l'esprit avec son premier thème. Et c'est ce que l'on retrouve dans cette musique, avec le jeu virtuose et musical du corniste qu'il faut vraiment féliciter là, parce qu'il y a vraiment des, comme on dit, des tuiles hein,
oui,
pour le cor hein, dans ce trio. C'est vraiment très délicat. Et il a joué ça avec virtuosité, avec finesse et avec expression. Donc, très très beau, avec notamment la touchante nostalgie de l'adagio mesto, dans lequel l'art du phrasé du corniste était à son sommet. Donc, très très beau. Le succès a été très intense, tel que les interprètes ont dû reprendre la dernière partie de ce trio. Et donc, ils ont rejoué avec beaucoup de bonheur apparemment et de bonheur pour le public. Un très beau moment.
Eh bien, comme on a rarement l'occasion d'écouter du Clara Schumann dans cette émission, je propose qu'on écoute une des trois romances pour violon et piano composées par la compositrice allemande L'Andante Molto, jouée ici par la violoniste hollandaise Janine Janssen, accompagnée par le pianiste russe Denis Kozukin. Thank you. C'était donc l'une des trois romances pour violon et piano de Clara Schumann, L'Andante Molto, dans une version de la violoniste Janine Janssen, accompagnée par le pianiste Denis Kotsoukin. Il faudra maintenant patienter jusqu'à l'automne prochain pour retrouver les musiciens des Clés de Saint-Pierre. Nous, on retourne maintenant à la Halle aux Grains pour évoquer le dernier concert de cette première partie d'émission. Il s'agissait en fait d'un récital donné par un des plus grands pianistes en exercice, Grigori Sokolov. Cette soirée était proposée par le cycle des grands interprètes, dont le grand pianiste russe est un habitué depuis longtemps, et comme à son habitude, Sokolov a joué un programme à la mesure de son immense talent, c'est-à-dire un programme immense par sa durée et sa difficulté, Serge.
Oui, et puis un programme très original, avec une première partie consacrée à Jean-Sébastien Bach, uniquement, avec d'abord 4 duetti qu'il a enchaînés sans interruption avec la partita numéro 2 en ut mineur. Alors, c'était un Bach étonnant, en ce sens que c'était d'une transparence et d'une lisibilité incroyable, qu'il a joué avec une rigueur d'architecte, on peut dire, mais une sensibilité d'artiste aussi. Il arrive à réunir des qualités que l'on ne pensait pas possible d'associer. Très beau moment là aussi, que c'est toute cette première partie. Alors, on le connaît, il arrive sur scène tel un sphinx hiératique. C'est un personnage qui impressionne sur scène, alors que finalement, l'homme est tout à fait affable et souriant en coulisses, et il aime bien le contact avec les gens.
C'est un très bon vivant. Je sais notamment que c'est un grand connaisseur du vin et un amateur
sûrement,
de vin.
Oui. Donc, vraiment un personnage très particulier, avec dans cette partie Bach des micro-nuances qu'il introduit, mais toujours avec finesse et avec intelligence. Et toute la deuxième partie, c'était en quelque sorte un dialogue entre Chopin et Schumann. Alors d'abord de Frédéric Chopin, il a joué 7 mazurkas, 4 mazurkas de l'opus 30, les 4 mazurkas de l'opus 30, et puis les 3 mazurkas de l'opus 50. Alors là aussi, avec un Chopin très personnel, très particulier. Il ne joue pas la souplesse et la finesse du chant de l'époque, mais il joue un Chopin dense, intense, intérieur, et parfois mystérieux. Et donc, avec des pièces comme la première mazurka de l'opus 50, très combative, alors que la troisième, toujours de cet opus 50, est une longue méditation, mais très longue et très intéressante. Et enfin, il a terminé avec les scènes de la forêt de Schumann, qu'il a joué comme le récit coloré et imagé que représentent ses œuvres, évidemment, avec de très beaux moments, des grands contrastes, et puis surtout un moment magique qu'il faut souligner, c'est l'Oiseau prophète.
Mais oui, parce que c'est la pièce la plus poétique et la plus sensible, je trouve. Peut-être même la plus sensible qui est composée Schumann lui-même.
Exactement.
Je pense qu'il a mis beaucoup de lui-même dedans. Peut-être que c'est lui, d'ailleurs, cet oiseau prophète. En tout cas, c'est un oiseau qu'il avait dans la tête, parce qu'on a du mal à comprendre pourquoi oiseau prophète.
Oui. D'ailleurs, le titre allemand, c'est Vogel als Prophet, c'est-à-dire oiseau comme prophète.
Hein, oui, voilà.
Et donc, avec l'abschied, les très émouvants adieux qui a conclu, il a eu un vrai triomphe, debout, les jambes debout, pour l'applaudir, au point que non. Et il est revenu pour carrément une troisième partie de son concert.
Comme il fait à chaque fois.
Comme il fait d'habitude. Et donc, on a eu droit à 6 bis, avec tout d'abord Les Sauvages de Jean-Philippe Rameau, puis la mazurka de l'opus 63 de Chopin, puis il est revenu à Rameau avec le tambourin, ensuite il est revenu à Chopin avec le prélude numéro 15, celui qu'on qualifie de la goutte d'eau, et puis il a joué une chaconne de Purcell, chose plus rare effectivement, et pour terminer par un choral de Bach, de nouveau pour revenir aux origines,
pour boucler la boucle.
Ich ruf zu dir, un beau choral dans sa version originale. Il a dit que ce n'était pas une transcription ni de Silotti ni d'un autre, donc c'était l'œuvre originale de Bach.
Et parmi les 6 bis donnés par Grigori Sokolov, le premier était donc une transcription pour piano du fameux rondo Les Sauvages, extrait de l'opéra Les Indes Galantes de Jean-Philippe Rameau. On l'écoute tout de suite sous les doigts du grand pianiste russe.
Thank you.
Les Sauvages, extrait de l'opéra Les Indes Galantes de Jean-Philippe Rameau dans cette transcription pour piano interprétée par Grigori Sokolov, avec qui nous concluons cette première partie d'émission. Petit intermède musical et on se retrouve avec Serge Chosy et Gabriel Bourgoin, notre invité d'honneur, pour la rubrique Agenda de ce numéro. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. À tout de suite.
Mélomanie. L'agenda.
L'agenda de Mélomanie, c'est d'abord Péléas et Mélisande, le drame lyrique de Claude Debussy à l'Opéra National du Capitole du 17 au 26 mai. Il y a 5 représentations de cette nouvelle production, mise en scène par Éric Ruff et dont la direction musicale a été confiée à Léo Houssein. Et pour le reste, eh bien, c'est Serge Chosy qui va tout nous dire.
Tout, peut-être pas. Enfin, il s'agit d'une nouvelle production, mais qui est une coproduction avec le Théâtre des Champs-Élysées, l'Opéra de Dijon, le Stadttheater Klagenfurt, d'Allemagne donc, et l'Opéra de Rouen, Normandie. Donc vraiment une large coproduction qui est menée pour la mise en scène par Éric Ruff. Et donc l'orchestre, évidemment l'Orchestre National du Capitole, le chef Léo Houssein est bien connu pour ses accointances avec la musique française. Et puis les costumes sont de Christian Lacroix, signalons-le au passage, avec une distribution intéressante, hein, avec dans Péléas Marc Mollion, c'est un rôle auquel il est habitué tout de même. Alors, je voudrais préciser que ce rôle de Péléas est tantôt chanté par un ténor, tantôt par un baryton. Ici, ce sera un baryton aigu.
Voilà, il peut faire les deux. Hein. Oui, Marc Mollion, absolument. C'est bien pour ça d'ailleurs que ce rôle lui va très bien d'une part, et puis c'est aussi pour ça qu'il est très demandé pour l'interpréter non seulement en France, mais pas seulement. Hein.
Voilà, on qualifie souvent le type de voix de baryton Martin.
Voilà, baryton Martin, le baryton aigu, l'aigu de l'aigu des graves, je crois, comme il faut dire.
Voilà, oui, c'est ça. Et puis Mélisande, ce sera la mezzo-soprane Victoire Bunel, bien connue chez nous, et là aussi dans un rôle qui est souvent chanté par des sopranos.
Oui.
Donc il y a les deux là aussi.
Alors qu'elle est mezzo, et c'est une prise de rôle hein, pour elle. Hein,
ah oui, donc, très, très intéressant.
Vraiment, très intéressant pour elle, pour nous.
Ah oui,
pour voilà, aussi, on va découvrir dans ce rôle. C'est pas rien quand même hein, d'être Mélisande sur scène.
Ah non, absolument. Et la suite de la distribution, Golo, le baryton Golo, donc, et Tassis Christoyanis. Geneviève, c'est Janina Bechle. Arkel, la basse, c'est Franz Josef Zelig, qu'on a
oui,
vu,
alors lui, on l'a vu
assez souvent
au Théâtre du Capitole. Comme Janina Bechle, d'ailleurs.
Voilà, et puis un médecin, Christian Triguier, d'une basse. Ignold, Anne-Sophie Petit, là, est chantée par une femme. C'est quelquefois chanté par un garçon soprano. Et puis le berger, Bruno Vincent. Alors, je voudrais juste terminer en précisant ce que Debussy disait à propos de cet opéra, son unique opéra. « J'ai voulu que l'action ne s'arrêtât jamais, qu'elle fût continue, ininterrompue. La mélodie est anti-lyrique. Elle est impuissante à traduire la mobilité des âmes et de la vie. » C'est étrange comme déclaration.
Oui, ça ressemble bien à Debussy, oui, et ça ressemble bien à la musique qu'il a composée.
Tout à fait, oui. Donc, les 5 actes, rappelons qu'il y a 15 tableaux, répartis suivant 5 actes, donc, et qu'il est qualifié par le compositeur lui-même de drame lyrique.
Voilà, drame lyrique, il ne faut pas dire opéra, il faut dire drame lyrique.
Drame lyrique.
Parce qu'il est vrai que c'est une pièce assez sombre. Hein.
Oui, pièce de Maurice Maeterlinck, qui s'est chargé d'adapter sa pièce pour en écrire le livret.
Et puis, on va rappeler que Léo Houssein, bon, on l'a vu plusieurs fois à la tête de l'Orchestre National du Capitole, et pas seulement dans la fosse, d'ailleurs, à l'Opéra, on l'a vu aussi à la Halograin. Et puis, Éric Ruff, c'est l'administrateur général de la Comédie Française.
Tout de même.
Donc, il est sociétaire depuis plus d'un quart de siècle, maintenant. Voilà, très, très belle distribution et très belle production, n'en doutez pas. Nous allons pouvoir écouter Marc Mollion dans un extrait de Péléas et Mélisande. Il est ici accompagné par la soprano Jenny Daviette.
Thank you.
Marc Moyon et Jenny Daviet dans ce petit extrait de Péléas et Mélisande, mais c'est donc Victoire Bunel qui va faire ses débuts dans le rôle de Mélisande aux côtés du chanteur français dans la nouvelle production de l'opéra de Claude Debussy, ou plutôt du drame lyrique de Claude Debussy, à découvrir sur la scène du Capitole du 17 au 26 mai. Il y a donc 5 représentations, il ne faut pas tarder pour réserver vos places si vous voulez y assister. Le cycle des grands interprètes présente un nouveau concert mardi 21 mai à 20h à la Halle aux Grains. C'est le Scottish Chamber Orchestra qui va s'y produire, sous la direction d'un chef que lui aussi on a l'habitude de voir depuis quelques années à Toulouse, le russe Maxim Emelianichev. Quel programme vont-ils nous proposer, Serge, sachant qu'il y a également une soliste invitée, et c'est une autre musicienne russe, la violoniste Alina Ibragimova.
Voilà, deux Russes donc pour un concert avec un programme qui met dans son cœur, donc, en quelque sorte, le concerto pour violon de Beethoven, qui sera joué, donc, par la violoniste. Et ce concerto est encadré par deux œuvres de Mendelssohn, Félix Mendelssohn, avec tout d'abord Les Hébrides, l'ouverture bien connue de Mendelssohn, et puis la troisième symphonie, également bien connue, c'est la symphonie écossaise, qui sera donnée pour terminer ce concert. Donc, programme intéressant de la part de ce chef du Scottish Chamber Orchestra, que l'on connaît bien à Toulouse, puisqu'il a souvent dirigé, et il redirigera, l'Orchestre National du Capitole. Et donc on sait que c'est un artiste complet, puisqu'il pratique aussi bien le clavecin que le piano, et le cornet à bouquin, j'en suis témoin, il joue aussi du cornet à bouquin.
C'est donc un musicien né et surdoué, Maxim Emelianichev. Alors ce programme, vous remarquez, c'est le Scottish Chamber Orchestra, et il y a deux œuvres, Les Hébrides, évidemment, et la Symphonie écossaise. Oui. On voit très bien dans quelle région du monde ça se passe. Voici Les Hébrides, l'ouverture en si mineur composée par Félix Mendelssohn dans une version enregistrée il y a quelques années par le Scottish Chamber Orchestra, et c'était sous la direction d'une autre vieille connaissance toulousaine, le chef américain Joseph Svendsen. Les Hébrides, l'ouverture composée par Félix Mendelssohn dans la version enregistrée par le Scottish Chamber Orchestra sous la direction de Joseph Svendsen, mais c'est donc Maxim Emelianichev qui va diriger cette œuvre lors du concert que donne la formation écossaise le mardi 21 mai à 20h à la Halle aux Grains pour le compte de la saison des grands interprètes. Nous allons donc terminer cette émission avec Gabriel Bourgoin, le chef du chœur et de la maîtrise de l'Opéra National du Capitole. Le chœur du Capitole est bien sûr à l'affiche de la nouvelle production de Péléas et Mélisande, on vient d'en parler, mais il est aussi en concert ce samedi 18 mai à la Chapelle des Carmélites, un lieu où vous vous produisez rarement avec vos chanteurs, mais qui se prête parfaitement au programme que vous allez y donner, sous-titré « Leçon de lumière, leçon de ténèbres », ça mérite, c'est le cas de le dire, quelques éclaircissements. En fait, il y a deux concerts.
Oui, il y a deux concerts. Avec le Chœur du Capitole, nous participons au premier concert, donc la partie lumière, la partie leçon de lumière, avec un répertoire complètement de musique française, à la fois en correspondance, en regard avec le Pélléas et Mélisande de Debussy, et aussi parce que je trouve personnellement que la musique française a cette couleur, cette patte particulière, une manière de presque jouer avec la lumière à travers les notes.
Alors, on va retrouver Claude Debussy dans ce
Bien
programme,
sûr.
Mais qui sont les autres? Il y a beaucoup de ses contemporains, en fait.
Oui, l'idée, c'était de rester sur une période d'une cinquantaine d'années et de trouver quasiment une parité aussi dans le programme, puisqu'il y a de formidables compositrices dans le répertoire français, à commencer évidemment par un grand nom de la musique française, lauréate du Prix de Rome, très jeune compositrice, disparue malheureusement beaucoup trop tôt, mais dont l'héritage a été porté de main de maître, et c'est le cas de le dire, par sa sœur Nadia. Je parle évidemment de Lili Boulanger, dont nous interpréterons quelques œuvres lors de ce programme. Il y aura également Pauline Viardot, Reynaldo Hahn, autre compositeur français qui gagne petit à petit à être connu.
On l'entend de plus en plus depuis quelques années,
oui,
Serge,
c'est vrai,
remarqué,
oui,
notamment
oui.
Dans les programmes de Mélodie Française.
Exactement, oui, oui.
Mais pas seulement, parce qu'il a aussi oui. composé des opéras qui ne sont pas forcément beaucoup joués.
Non, en effet, et pour avoir cherché à remonter un ouvrage, il faut parfois compiler les sources pour retrouver le matériel d'orchestre, le piano-chant, tout ça. Donc il y a un véritable répertoire lyrique méconnu chez Reynaldo Hahn. Les mélodies gagnent à être connues. Mais il y a aussi un petit peu de répertoire pour chœur. Et c'est un compositeur qu'on pourrait trop facilement qualifier de facile, sucré, mais qui a quand même plus de profondeur que ça, si on prend le temps de le découvrir et de l'écouter. Et donc je suis ravi qu'on en présente quelques extraits dans ce programme. Pour finir, il y a aussi un autre grand compositeur de la musique française, qui est Maurice Durufflet, qui a été titulaire des grandes orgues de l'église Saint-Étienne-du-Mont à Paris. On proposera un Lux Aeterna, donc une lumière éternelle pour ses leçons de lumière.
Qui est un extrait de son Requiem.
Exactement.
Oui. Extrait de son Requiem qu'on a entendu il n'y a pas si longtemps
Exactement,
à la Basilique Saint-Cernin.
Qu'on met souvent en parallèle avec le Requiem de Fauré, d'ailleurs.
Oui, oui, oui.
C'est un peu la même forme, hein, mais le style est différent.
Durufflet lui-même revendiquait non pas l'influence de Fauré pour son Requiem, mais celle de Ravel, pour sa musique en tout cas.
Oui, oui, oui.
Mais Ravel étant l'élève de Fauré, bon, il y avait quand même une filiation claire. Alors, les œuvres qui vont être données de Claude Debussy, par exemple, si on peut avoir le détail.
Oui, alors il y a la première des trois chansons sur des textes de Charles d'Orléans. Et Charles d'Orléans, c'est un écrivain poète de la période médiévale, très très important, dont on va trouver un certain nombre de textes, à la fois chez Debussy et chez Reynaldo Hahn, tout au long du programme. Nous aurons aussi trois mélodies. Donc habituellement chantés solo, qui ont été arrangés pour chœur. Ça permet de donner un autre regard, une autre lumière sur ces mélodies. Il y a Le temps à laisser son manteau, toujours de Charles d'Orléans. Il y a Beau soir, qui est
ces titres magnifiques qui déjà sont très évocateurs à eux seuls.
Oui, et puis la magie de Beau soir, c'est qu'en deux accords, tout est dit.
Tout est dit.
Juste ce balancement, voilà. Et les cloches également.
Reynaldo Hahn.
Reynaldo Hahn, nous aurons trois de ses madrigaux, parce que dans ce programme, il y a à la fois la couleur française, il y a à la fois toute une génération de compositeurs, mais il y a aussi cet héritage de la musique ancienne, qu'on développera un petit peu plus après, donc trois madrigaux, et également quelques extraits de ses rondelles, deux extraits, puisque ses rondelles, c'est tout un tas de pièces pour soliste et aussi pour chœur, donc là, on prendra juste les pièces pour chœur.
Lili Boulanger. Parce que là aussi, les titres sont souvent assez évocateurs, les pièces de Lili Boulanger.
Lili Boulanger, nous aurons droit aux sirènes, également des reflets, pour rester dans la thématique de la lumière. Reflets qui est une mélodie qui sera ici chantée par l'intégralité du pupitre de baryton basse. Et pour finir, Sous-bois.
Sous-bois, vous voyez.
Ouais. Très beau, hein. Et donc, très belles évocations.
Pauline Viardot, alors c'est peut-être la moins connue de toute la bande, si je puis dire.
Oui.
Qu'est-ce que vous allez nous donner de cette compositrice, qui n'était pas que compositrice d'ailleurs?
Oui. Alors, Pauline Viardot, on va ouvrir le concert avec elle et son Chœur des Elfes.
Sous-bois, Chœur des Elfes, ça va très bien. Oui.
Formidable, oui, on va découvrir là. Hein.
Dans la musique française, on peut voir notamment toute l'image de la forêt dans Pélléas et Mélisande de Debussy, donc les sous-bois, les créatures un petit peu fantasmagoriques et mythologiques, donc les elfes, les sirènes, ce sont des choses qui ont beaucoup animé les compositeurs français de cette période-là.
On peut dire que c'est les compositeurs de la Belle Époque, hein, grosso modo, c'est ça. Alors la pauvre Lili Boulanger est morte, effectivement, elle n'avait même pas 25 ans, et elle est morte la même année que Debussy. Alors qu'ils étaient de deux générations très différentes, alors que sa sœur est morte, elle, en 1979, donc a vécu beaucoup plus longtemps, effectivement, a toujours porté l'œuvre, l'héritage, mais aussi l'œuvre de sa sœur, qu'elle a toujours défendue, et qu'on redécouvre depuis quelques années. On entend de plus en plus souvent du Lili Boulanger dans les concerts, et d'autres compositrices françaises de cette époque, d'ailleurs.
Oui, oui, c'est une bonne chose qu'enfin on redécouvre ces œuvres importantes.
Ah, il y a une deuxième partie, enfin il y a un deuxième concert plutôt, donc vous c'est à 16h,
exactement,
précis, à la chapelle des Carmélites, leçon de lumière, et donc il y a leçon de ténèbres à 20h, le chœur de Capitole n'est pas engagé dans cette seconde affaire, à 20h donc une œuvre de Philippe Fénelon. Alors moi j'avoue que je ne connais pas la musique de Philippe Fénelon, je connais son nom, mais lui, je n'ai jamais entendu d'œuvre de lui en concert. Vous Serge, vous avez déjà eu l'occasion.
Oui, il y a eu des œuvres de Philippe Fénelon qui ont été données à Toulouse, oui, oui.
Compositeur toujours de ce monde, il a 72 ans, je crois 73 ans, quelque chose comme ça, qui a été l'élève de Messiaen, ce qui déjà donne quelques indications sur la musique que l'on va entendre. On peut peut-être annoncer tout de même la distribution. Oui. Donc il y aura Céline Laborie, qui est une chanteuse toulousaine, formée au CRR de Toulouse, en soprano. Émilie Rose Brie, deuxième soprano. Contralto Svetlana Lifar. Et puis il y a un ensemble, l'ensemble Précipitation, que je ne connais pas. Il n'est pas toulousain, ma connaissance, je ne crois pas. Donc, il y aura un clavecin, deux violons, une basse de violon, viol de gambe et théorbe. Voilà. Et avec tout ça, on aura une leçon de ténèbres composée par un compositeur contemporain. Ça sera une découverte à 20h. Je vous propose d'écouter un extrait d'une des pièces au programme du premier concert du 18 mai à la chapelle des Carmélites, « Dieu qui l'a fait bon regarder », composée par Claude Debussy sur un poème de Charles d'Orléans. Et c'est une version de la Maîtrise de Toulouse dirigée par Marc Hopstadt. Dieu qui l'a fait bon regarder, pièce de Claude Debussy, composée sur un poème de Charles d'Orléans et interprétée ici par la Maîtrise de Toulouse sous la direction de Marc Hopstadt. C'est donc une des œuvres au programme du premier concert du chœur de l'Opéra National du Capitole, Leçon de lumière, samedi 18 mai à 16h à la chapelle des Carmélites. Deuxième concert au même endroit à 20h, consacré entièrement aux leçons de ténèbres du compositeur contemporain Philippe Fénelon. Pour réserver et acheter vos places à ces deux concerts, il faut vous connecter à l'adresse www.opera.toulouse.fr. C'est à cette même adresse que vous pouvez faire vos réservations à l'une des 5 représentations de la nouvelle production de Péléas et Mélisande, l'opéra de Claude Debussy, mise en scène par Éric Ruff. 5 possibilités donc pour la découvrir les 17, 19, 21, 24 et 26 mai. pour le concert du Scottish Chamber Orchestra dirigé par Maxim Emelianichev et avec la violoniste Alina Ibragimova en soliste, mardi 21 mai à 20h à la Halle aux Grains dans le cadre de la saison des grands interprètes. La billetterie est en ligne à l'adresse www.grandsinterprètes.org. Et je rappelle enfin que l'Orchestre National du Capitole donne Cabo Caboche, une œuvre pour le jeune public composée par Carole Beffa, dimanche 19 mai à 11h. Les places sont à réserver et acheter sur le site www.onct.toulouse.fr. Tous mes remerciements à Serge Chosy qui a co-animé ce numéro à mes côtés et à Gabriel Bourgoin, notre invité d'honneur. Merci également à Christophe Aubry, le réalisateur de cette émission. Podcast disponible et téléchargeable dès aujourd'hui sur le site web de Radio Présence comme d'habitude. Et merci à vous tous de rester fidèles à ce rendez-vous chaque mardi et mercredi. Excellente semaine musicale à tous. À bientôt.